Au-delà des apparences.
Au-delà des apparences.
Une émission proposée par Sandrine Merck.
Bonjour à toutes et à tous. Ça y est, nous sommes en plein dans les Jeux Olympiques d'hiver et vous allez faire la connaissance aujourd'hui d'un athlète de haut niveau qui colle parfaitement à l'ambition de cette émission, qui s'appelle, je vous le rappelle, Au-delà des apparences. Vous allez l'entendre. Omar Bouyoucef, bonjour.
Bonjour.
Quand je vous ai suivi jusqu'en Norvège, il y a...
32 ans.
32 ans. Vous avez gagné la médaille d'or aux Jeux de Lillehammer. Puis je vous ai rejoint 4 ans plus tard, aux Jeux de Nagano, au Japon, où vous avez raflé la médaille de bronze.
Exactement.
C'est déjà loin tout ça, car nous voilà aujourd'hui dans les Jeux Olympiques de Milan, les Jeux d'hiver, votre compétition favorite, puisque vous êtes skieur de fond de haut niveau, un athlète de l'équipe de France, de la première génération, pourrait-on dire, maintenant que vous êtes vieux, comme moi. Quel parcours, quel combat et que de victoires sur votre handicap. Car oui, vous ne le voyez pas, chers auditeurs, mais Omar est tranquillement assis sur son fauteuil qu'il ne quitte jamais. Et pour cause, ses jambes ne fonctionnent pas depuis qu'il a 2 ans. Omar, vous êtes un pionnier du sport handicap. Parce qu'on peut dire quand même qu'on part de très très loin.
Exactement. Mais moi, j'ai grandi avec le handicap. Donc pour moi, le handicap, je l'oublie totalement. Je suis totalement comme tout le monde. Le handicap, je le vois par les obstacles qu'on nous met partout. Et à moi de les franchir et ça me permet toujours d'être très fort et de surmonter tout. Et d'être très fort pour le sport aussi parce qu'on a besoin justement de surmonter tout un tas d'obstacles.
Alors ça, c'est super intéressant. On va revenir. Hein. Je vais extirper toutes vos recettes du rebond et de la gagne hein, que vous avez parce que, justement, un handicap. Donc, qu'est-ce qu'il faut dépasser en permanence? Mais en fait, quand je dis on part de loin, c'est qu'on a vécu tous les deux le fait que le sport de compétition des personnes handicapées était quasi inconnu quand vous avez raflé cette première médaille d'or.
Justement, il a fallu gagner cette belle médaille d'or pour sortir du lot. Et d'être enfin reconnu à notre juste valeur. J'aime bien dire juste valeur parce qu'on le mérite aussi. Voilà, les personnes qui ont un handicap font du sport à part entière. Elles l'ont démontré. Et grâce aux médias et grâce aux journalistes, leur ténacité de vendre leur reportage. Et qu'enfin, ça passe sur Stade 2. Mais 5 minutes sur Stade 2, ce n'est pas du direct. Mais on a gagné ça quand même.
Et donc ça, c'était en 94. Et le... En fait, votre discipline, le ski de fond assis, vous allez expliquer assez vite en quoi ça consiste, hein, mais le ski de fond assis n'était jamais diffusé à la télé, ou quasiment jamais, en 1994.
Le ski de fond assis et tous les handicaps à côté, parce qu'on a 3 grands groupes d'handicaps, et nous, on a créé justement, on est un peu les pionniers de la discipline du ski de fond assis qui n'existait pas avant 1992, parce qu'on a eu les Jeux à Albertville avant 1994, et c'est là que j'ai démarré enfin avec d'autres personnes qui ont bien voulu jouer le jeu. On nous a appelés, on a essayé d'inviter dans un premier temps 92 jeunes à découvrir ce que c'était le sport d'hiver. Moi, je sortais de l'athlétisme, je ne connaissais pas du tout la neige. Et bien, il a fallu donc découvrir tout ça, s'asseoir sur une luge, une espèce de luge qui accrochée à un tracé qui existe. Et là, avec des petits bâtons, on s'est mis à propulser nos bras et on a essayé d'imiter un maximum les skieurs debout. Mais ça a bien fonctionné parce qu'on avait 20 ans de retard. Et en 1994, les 20 ans de retard ont été effacés puisque la médaille d'or, ça efface tout.
Au bout de 2 ans seulement, où vous êtes installé sur une luge, alors donc vos jambes qui ne servent à rien, entre guillemets, sont attachées sur
un châssis.
Sur un châssis qui est posé sur des skis. Ouais. Et c'est vous faites du ski à la force des bras et du torse. Et c'est là que ça force l'admiration.
C'est là qu'on s'est vraiment pris au jeu. On a souffert, c'est sûr, au début, monter des côtes, avoir des dénivelés importants, freiner comme on pouvait parce qu'on ne pouvait pas du tout freiner. Mais bon, ça fait partie du jeu. Voilà, c'est le rôle des pionniers aussi, hein, de découvrir, de se casser la figure. Et à partir de là, je pense qu'on a gommé ce qui nous manquait avec les meilleurs. Et je pense qu'on a... On a forcé un petit peu à l'admiration parce que, comme moi, un simple Gersois qui ne connaissait pas du tout la neige à 3 heures de Tours des Pyrénées, aller en Norvège et battre forcément ces skieurs nordiques qui vivent avec la neige toute la journée, qui vont à l'école avec la neige, je veux dire, pour moi, ils se demandaient d'où on sortait. Et je pense que la ténacité qu'on avait tous les jours de franchir tous ces obstacles, d'avoir ces montées pour aller en ville, voilà, il n'y avait rien d'adapté pour nous en tout cas. Et c'est tout ce parcours de combattant, je pense, qui a permis d'être aussi fort qu'eux.
Et alors c'est incroyable parce qu'au dernier jeu, finalement, paralympique, c'est vous qui avez porté la flamme, ou en tout cas une des flammes paralympiques. Qui ont fait, ces Jeux, ils ont fait fureur à Paris, donc c'était l'été 2024.
Oui, tout à fait.
Mais quel chemin parcouru, enfin, quand on y pense, c'est incroyable, en termes de reconnaissance, de représentation, et comment les gens aujourd'hui s'intéressent d'une autre manière aux performances de la personne handicapée.
Et faire partie justement des 10 000 relayeurs de la France, c'est pas rien. J'ai même fait une course 10 km pour tous pendant les Jeux, qui est ouverte à tout public. Et j'ai eu ce fameux sésame. Disons, prendre le départ à minuit, alors qu'il y avait le lendemain un marathon qui se courait avec les meilleurs, enfin de l'élite. Je veux dire, c'est ça la magie des Jeux. C'est permettre vraiment à toutes ces personnes déjà une inclusion totale. C'est-à-dire qu'il y avait une personne qui avait un handicap, après il y avait une personne, on passait le relais à une personne féminine, et ainsi de suite. Je veux dire, on était complètement mélangés à ce public. Et le fait d'avoir déjà en 92 vu la flamme passer parce qu'elle est passée à Auch, et se dire plus tard que j'allais la porter, c'était inimaginable.
Et ce qui est inimaginable aussi, c'est ce qui s'est passé dans la tête des valides, en fait. Sur ces Jeux paralympiques, il y a eu un engouement exceptionnel. C'était quand même 30 ans après que vous commenciez à faire vos chutes de pionniers sur des skis qui n'avaient pas de frein.
Surtout qu'en 1994, on avait des médailles qui se détachaient. On se demandait même si on allait arriver à les amener chez nous, parce que ce n'étaient pas du tout les mêmes médailles que les personnes valides, forcément. 4 ans plus tard, à Nagano, on avait des médailles un peu plus costauds. Et là, aux Jeux de Paris, c'était la même médaille. On avait le même, quota personnes féminines et masculines. Ça, c'est pas rien non plus, d'avoir autant d'athlètes féminins et masculins. Et se dire aussi que le même logo des Jeux de Paris était le même pour les Jeux paralympiques et les Jeux, Jeux olympiques. Pardon.
Et ça, quand on a combattu tout au long de ces 30 années pour cette reconnaissance, on peut pousser un immense cocorico quand même. Hein. D'ailleurs, on pourrait d'abord commencer à remercier les journalistes. Je ne le fais pas tous les jours. Donc vraiment les remercier pour leur ténacité d'avoir sorti de l'ombre et sur les ondes, parce que c'est bien pour ça qu'il y a un engouement aussi, très clairement, hein, sur les ondes et puis à l'image. Donc il y a ça. Il y a remercier aussi... Enfin, je peux déjà vous laisser vous exprimer là-dessus. Mais...
Moi, je pense que la médaille, je peux la partager énormément avec tout le monde, parce que c'est un gros travail, que ce soit les journalistes qui ont vendu leur sujet. Voilà. Là, je pense qu'ils méritent autant de médailles que la nôtre. Parce que...
C'est vrai que c'est un sacré parcours du combattant, il faut y croire. Hein.
La médaille et la valeur, c'est les partager. Et ça a été le cas, justement, de la partager à tout le public, parce que si on est dans l'anonymat complet, une médaille ne vaut rien. Et là, le fait d'avoir partagé avec tout le public et se dire qu'on peut pratiquer comme tout le monde, aller en ski de fond. Avant, on s'imaginait que c'était infaisable. Et nous, on a démontré le contraire. Simple Pyrénéen, aller au JO. Voilà, on a fait aussi bien que les Alpins. Les Alpins, on en parle beaucoup. Et les skieurs assis pyrénéens, c'est autre chose aussi.
Alors... Un autre qu'on peut, à mon avis, chaleureusement saluer, même s'il ne le sait pas, c'est votre entraîneur. Parce que l'entraîneur de l'équipe de France à l'époque, donc Yves Maréchal, qui vous a bousculé, poussé hors de vos limites et hors de vos fauteuils, avec son espèce d'infatigable énergie totalement incroyable, ça a été un fer de lance incroyable aussi. Et je pense que dans la sphère de la fédération handisport, peut-être qu'on n'a pas assez compris à quel point il fallait des moteurs de cet ordre. Lui venait du ski valide et il vous a encadré pendant une dizaine d'années, je crois.
Tout à fait. Il est passé de simple farteur à encadreur et ça nous a permis, déjà, ne serait-ce que farter ses skis, c'était primordial. On découvrait tout ça, on ne pensait pas qu'il fallait entretenir son matériel, on pensait qu'il fallait juste pousser sur des skis et ça suffisait. Non, la médaille, justement, c'est un tiers de tout, c'est-à-dire le matériel doit être préparé, et c'est le cas, justement, grâce à ces techniciens comme Yves Maréchal, qui est passé derrière, parce qu'il a été aussi entraîneur chez Valide, comme vous disiez.
Et ancien compétiteur,
Ancien compétiteur, je pense qu'il a dû faire même une fois les Jeux, il me semble.
Lui, c'est vraiment un précurseur parce qu'il a vu, en fait, vos dépassements, il a vu vos performances, c'est ça que j'allais dire. Il les a poussés pour que vous deveniez professionnel. Mais c'était quand même à s'arracher les cheveux à l'époque pour être reconnu, quoi, pour avoir ne serait-ce qu'une image, un mot sur les ondes, etc., etc.
Déjà, il nous a donné un petit peu le fonctionnement d'un skieur, de fond, tout simplement, de s'habiller chaudement. Bon, ce n'est pas le cas.
C'était vraiment le béaba. Oui, je me rappelle encore comment vous souffliez sur une bûche pour essayer de ranimer un feu. On partait de loin.
Moi, je me rappelle à moins de 30 en Suède d'avoir failli avoir un pouce y passer parce qu'à moins de 30, moi, j'avais un gant qui était percé. Bon, ce genre de choses, voilà, ça peut arriver qu'à nous. Ou se dire que les chaînes, ça ne sert à rien quand on roule dans les Alpes. Nous, on était tout le temps à mettre nos chaînes au niveau des pneus. Eux, ils nous regardaient, ils se disaient, qui c'est? C'est Pecno, c'est Pyrénées.
Votre compère Didier aussi, qui s'était brûlé les jambes parce qu'il, sur le poil parce qu'il ne les sentait pas non plus à cause du handicap, etc. Enfin, on pourrait faire un collier de perles de toutes les boulettes que vous avez essuyées, mais en avançant.
Ce qui est bien, c'est qu'on a essayé tout ça. On est tombé en plein dedans, on s'est relevé et c'était l'essentiel. Voilà. On a vécu en plus avec toute une personne qui avait des handicaps différents, que ce soit des non-voyants, malvoyants.
Des non-voyants qui skiaient.
Voilà, qui
skiaient. Donc, bien sûr.
Et on a appris avec eux, quoi. Même on déconnait avec eux, on déconnait du handicap. C'est ça aussi, la compétition, c'est partager tous ces moments-là importants et mettre même, pourquoi mettre. On a réussi même à skier, à faire skier Yves Maréchal en luge et pour leur montrer un petit peu nos difficultés aussi.
Non, mais c'est clair.
Ouais.
Et puis, voilà, rire de tout, tomber de son fauteuil, s'échapper de cette condition. Quand on voyait les skieurs skier avec les lunettes noires et leurs photos d'enfants dans les yeux,
tout
parce qu'ils ne voyaient rien, et travailler à l'oreille sur le bruit de la neige dans les arbres, etc. Enfin, tout était époustouflant, en fait.
Je crois qu'il a ouvert une ouverture d'esprit, surtout pour toutes ces personnes-là. Parce que moi, je me suis occupé par la suite, comme je n'ai pas pu faire les Jeux, bon, je voulais en faire pas mal. Hein. À un moment, il fallait laisser la place aux jeunes, forcément.
Oui, trop vieux.
Mais je me suis occupé d'un club par la suite. Et ça m'a permis justement de redonner ce que j'ai eu grâce à ces personnes qui nous ont permis d'aller skier, de faire les Jeux. C'est pas rien de faire les Jeux. C'est là où je me suis rendu compte qu'on avait une chance énorme d'avoir fait autant d'Olympiades. Et là, ça m'a permis d'être président maintenant d'un club et de se rendre compte un petit peu des problèmes, que d'aller chercher les financements, c'est pas rien. Et à chaque fois, il faut se battre tous les jours pour permettre à tous ces nouveaux jeunes d'accéder aux Jeux.
Et de sortir de chez eux.
Et de sortir de chez eux,
Alors à mon avis, on en parle dans l'émission suivante, dans le prochain chapitre, c'est ça. Tout ce que vous devez aussi au centre de rééducation duquel vous venez, où vous avez passé toute votre enfance, ça on va en parler aussi. Et puis ce que vous avez envie absolument d'insuffler dans la tête des jeunes qui, a priori, ne se risqueraient peut-être pas comme ça d'emblée sur les pistes,
tout à fait.
Comme vous avez pu le faire. Donc à la semaine prochaine, Omar Bouyoussef.
Merci beaucoup.